CFM Corde, le mag.
Si vous êtes branché jardinage ou même agriculture, hein, tendez bien l'oreille car la chronique qui suit va vous intéresser. Je suis en compagnie de Rémi Kulik du Jardin des Merveilles à Vaour. Rémi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors la dernière fois, nous avons parlé ou plutôt survolé et abordé les plantes essentielles à avoir dans son potager. Aujourd'hui, Rémi, on va s'intéresser à un groupe de plantes. Ce sont les légumes vivaces dont tu nous as parlé succinctement la dernière fois. Donc déjà, la définition des légumes vivaces, exactement, c'est quoi un légume vivace?
Alors, la définition même plus globalement d'une plante vivace, c'est une plante, on va la semer cette année, on va la faire pousser cette année, mais elle ne va pas mourir à la fin de l'année, elle va continuer à vivre plusieurs années. Donc, voilà, on a beaucoup de plantes autour de nous, les arbres sont quasiment sont tous vivaces. Et à l'opposé, la plante annuelle, c'est la tomate, la courgette qu'on va semer là maintenant. On va avoir une production cette année, puis à la fin de l'année, ben c'est fini.
Donc c'est une plante un peu pour les fainéants, et c'est pas péjoratif ce que je dis, parce qu'il y a d'ailleurs ce proverbe que j'aime bien qui dit que seuls les fainéants peuvent changer le monde, les autres n'ont pas le temps. C'est-à-dire que tu la plantes, après tu lui donnes des soins, tu l'entretiens bien, et elle aussi te le renvoie en retour, quoi.
C'est exactement ça, ouais. C'est vrai que la fin de ta description est pas mal. Moi, j'allais dire, c'est des plantes pour les gens qui n'ont pas le temps, justement, de tous les ans refaire des semis. Et puis, pour beaucoup de choses, c'est quand même des plantes qui sont beaucoup plus rustiques. Par exemple, là, j'ai alors c'est pas un légume, c'est le basilic vivace. Moi, les basilics annuels qu'on cultive ici, ben, j'arrive plus à les faire parce que c'est trop fragile, trop sensible. Et à côté, on a un basilic vivace qui est beaucoup plus rustique, qui peut subir des petites gelées et qui continue à tenir. C'est des légumes qui vont même pouvoir produire beaucoup plus tôt dans l'année, parce qu'il a passé l'hiver déjà en terre, bien enraciné. Et dès que les premières chaleurs de l'année arrivent, ça pousse très très vite et on peut rapidement commencer à manger quelque chose dessus.
C'est vrai que là, par rapport aux plantes vivaces ou aux légumes vivaces, je repense souvent à la manière qu'on a de manière standard un peu à entretenir un potager. Tous les ans, on y revient. Voilà, on passe la grelinette ou on motoculte ou horreur pour toi, on passe un gros motoculteur qui va vraiment labourer le sol, on refait ses carrés. Bref, on refait son potager presque chaque année. Alors que si on le pense bien dès le départ, on peut installer des zones de culture et pas trop y revenir. Et c'est un peu ça aussi l'idée de ces légumes vivaces, parce qu'une fois qu'on les a installés, pendant X années, on va pas les bouger.
On va pas trop les bouger, non, beaucoup moins que les légumes annuels, c'est sûr. On va d'ailleurs, moi, ce que je fais chez moi, c'est plutôt les destiner à des zones que j'utilise un petit peu moins. J'ai quand même un coin de potager avec des plantes annuelles. L'avantage des plantes annuelles, effectivement, même s'il faut le refaire tous les ans, c'est que tous les ans, on peut tester quelque chose de nouveau. Avec les légumes vivaces, une fois qu'il est planté, ben, on va l'avoir que lui pendant pas mal de temps. Mais donc voilà, on peut les mettre sur des zones un peu moins travaillées, un peu moins utilisées. Le seul travail qu'on aura à faire, c'est entretenir un peu, désherber, tailler un petit peu, nourrir un petit peu le sol éventuellement si besoin, sauf si on a un sol vraiment vivant qui est autogéré. Mais voilà, après le travail sera beaucoup plus limité dessus, c'est sûr.
Alors on parle là depuis de ce groupe de plantes un peu de manière générale, hein, les légumes vivaces. Toi, en termes de légumes vivaces, qu'est-ce que tu aimes déjà, qu'est-ce que tu préconises?
Alors moi j'ai mes chouchous, j'ai mes préférés. Moi je considère vraiment ça comme des légumes, ça pousse tout seul et on en trouve même en sauvage par chez nous, c'est ortie consoude.
Oui.
C'est des plantes qui sont, ben voilà, on peut les utiliser de plein de manières différentes et c'est même des plantes qui n'en sont pas que alimentaires, c'est aussi médicinal, c'est aussi intéressant pour faire des purins, pour faire des engrais pour le jardin. Mais voilà, une petite zone d'ortie, une fois que c'est implanté, ça pousse tous les ans, c'est hyper nutritif, c'est très riche en fer, en vitamines, en plein de choses intéressantes, la consoude bien aussi. Et après, dans les légumes qui sont un peu plus classiques, le chou d'Aubenton, qui est un chou qui est vivace, ça fait une espèce d'énorme buisson de chou, et on peut aller récolter des branches, des feuilles à peu près toute l'année. Ensuite, on a quoi? De l'hémérocal. Alors, pour ceux qui connaissent pas, on peut, alors, faites vos recherches et regardez, ça ressemble à un lys, qui est orange, qu'on appelle le lys d'un jour. Et les fleurs se mangent, les feuilles se mangent, on peut couper les feuilles qui poussent au printemps et cuisiner ça comme des haricots. Les racines se mangent, donc vraiment, toutes les parties sont intéressantes. Et c'est des plantes qui sont hyper rustiques. À côté de ça, on a l'oignon, oignon rocambole. Alors, c'est génial. On peut manger donc l'oignon, on peut manger la feuille. Et quand il fleurit, eh ben, il n'arrive pas à faire une fleur. Celui-là, au lieu de faire l'ampe avec la fleur au bout comme un oignon normal, eh ben, au bout de cette ampe, il va faire des bulbilles, des petits bulbes d'oignon qu'on peut directement récupérer pour replanter au sol, voire laisser faire. Ces bulbilles, ils vont prendre du poids, ils vont tomber à côté et refaire une nouvelle plante. Donc, c'est soit on récolte, on en mange et c'est très bien, soit on n'a pas le temps de le récolter et lui, tout doucement, il va se multiplier, s'étaler. Et donc, comme ça, voilà, on en aura de plus en plus sans faire grand-chose.
Ouais. En fruits, on a parlé là de légumes vivaces. En fruits, bon, je vais pas parler des pommiers, des cerisiers. Mmh. Tout le monde aura compris que on n'a pas besoin de le replanter chaque année. Mais il y a des petits fruits aussi que l'on peut planter dans son potager et avoir des apports en vitamines, en goûts un peu originaux. Est-ce que tu as des conseils aussi à nous donner à ce niveau-là?
Alors, au niveau variété, moi je dirais même sans aller trop loin dans l'originalité, on peut rester dans les classiques cassis, groseilles, framboises, mûres. Et en restant dans ces plantes-là, il y a beaucoup de variétés de plus en plus qui sont hyper intéressantes. Il y a même des croisements qui ont été faits entre le cassis et la groseille, la casseille, entre la framboise et la mûre, on a la muroise. Et puis, et après, on peut aller sur des trucs un peu plus originaux. On a du goji, on a des plantes grimpantes comme la kébia. La vigne après est très intéressante, même en restant dans la vigne on peut avoir des diversités de goûts. Je m'intéresse moi pas mal à tous ces cépages qui sont on dit interdits à la vinification, comme la noix, l'isabella et compagnie, donc qui sont très peu connus aujourd'hui parce qu'ils ont été interdits à la vinification, et donc il y a eu cette image de plantes interdites. Mmh. Alors que en tant que raisin de table qu'on peut cultiver dans nos jardins, ils sont pas interdits du tout.
Et tu sais pourquoi c'est interdit?
Alors, une raison qui... on pourrait rentrer dans quelque
non,
chose
mais c'est juste par
débat.
Curiosité là.
Mais oui, bah officiellement c'était interdit parce que c'était, ça faisait un vin qui rend fou, ça contient trop de sucre, ça fait des vins trop alcoolisés, et donc on a dit que ça, c'était interdit pour ça. Officieusement, les lobbies des produits phytopharmaceutiques ont interdit ça parce que c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'être traitées. Pas du tout sensible au phylloxéra, ce puceron qui a failli décimer tout le cépage français, enfin tout le vignoble français, pardon. On n'a pas besoin de les greffer, il suffit de tailler un bout de branche, de le replanter, on arrive à produire facilement des plantes. Donc voilà, trop facile à produire, trop simple,
d'accord,
pas besoin de produits phytopharmaceutiques.
Pas de rentabilité donc, du coup.
Pas rentable, pas rentable pour le système agricole français.
Quoi. Mais très bon
mais
goût.
Des très très bons raisins, ouais, on a des raisins. Moi, je pense à la noix, ça a même pas un goût de raisin, c'est un goût de fruit de la passion ou d'ananas, ça a vraiment un goût particulier. L'Isabella, qui a presque un goût de framboise, enfin, c'est vraiment des raisins super intéressants. Donc voilà, vous en privez pas, il y a beaucoup de choses à faire avec ça.
Eh bien, merci pour la découverte. Et puis, ce sont des plantes qu'on peut retrouver, pour la plupart, certaines en tout cas, au Jardin des Merveilles.
Exactement.
De Vaour. Et on peut aussi réécouter cette chronique sur cfmradio.fr si on n'a pas eu le temps de noter quels légumes vivaces on peut essayer, tester dans son potager et goûter aussi. Hein, c'est souvent, on parle une fois par an de la semaine du goût dans les cantines scolaires. On peut aussi la lancer, nous, les mois du goût dans notre potager, comme ça, ici. Des légumes, les tester une année, voir au moins si ça nous plaît. Et si ce sont des légumes vivaces, si ça nous plaît, bien l'année d'après, ils seront toujours là. On te retrouve, Rémi Kulik, très prochainement pour parler peut-être d'engrais. Tiens,
allez,
ce serait pas mal de
pas.
Parler un peu des engrais. On va ouvrir un large débat sur les engrais et vous aurez bien compris, il ne s'agira pas de Monsanto. Merci Rémi d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, à bientôt.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.